Un excellent sabbat à tout le monde. Nous approchons avec joie des belles fêtes de Dieu du printemps. Dans peu de temps, on va reprendre le cycle des fêtes annuelles que Dieu nous a données pour comprendre son plan, pour comprendre ce qu'il est en train d'accomplir sur la terre actuellement. Le titre de mon sermon aujourd'hui, « Fêtes du printemps et repentance ». Et ce sont deux choses qui sont totalement indissociables. Pour vivre les fêtes du printemps selon Dieu, il faut être encore en train de nous repentir, c'est-à-dire en train de nous examiner pour éliminer le mal de nos vies. Comme on fait en préparation pour la fête des pains sans levain, on sort le levain physique de nos maisons, mais on fait la même chose sur le plan spirituel, c'est qu'on travaille à sortir le levain spirituel, tout ce qui est mauvais dans notre vie, qui est contraire aux lois de Dieu. Et c'est pour ça que les fêtes de Dieu du printemps, la Pâque et les pains sans levain, sont indissociables. Et elles sont essentielles aux yeux de Dieu. Allez dans 1 Roi, le chapitre 21, s'il vous plaît. 1 Roi, chapitre 21. Ici, je vais me référer au récit d'un événement de l'époque qui est très révélateur, qui a une leçon profonde pour nous. On parle ici d'un très méchant roi, Achab, roi de Samarie. 1 Roi, chapitre 21, et on voit ici ce qui s'est passé. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisraël avait une vigne à Jisraël, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne. » Alors le roi voulait avoir la propriété de ce monsieur-là qui était juste voisine de son château. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Alors le monsieur tenait à garder ce qui lui venait de son père et à continuer à en prendre soin et à le développer. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole qui lui avait été dite. Quand Naboth de Jisraël lui avait dit, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et regardez ce que le roi a fait. Pauvre petit roi! Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Il était tellement triste. Il était simplement le roi. Il devait avoir d'autres possessions, mais il y avait un petit champ à côté de son palais qu'il voulait absolument posséder pour lui se faire un jardin. Et comme l'autre refusait de lui concéder, il était tellement triste. Mais vous regardez l'histoire. Sa femme a dit, vous regarderez vous-même après, « Ne t'en fais pas, moi je vais m'occuper que tu aies le champ en question. » Et ce que la dame a fait, c'est qu'elle a fait arriver des faux témoins contre cet homme-là et elle l'a fait lapider, elle l'a fait tuer, de sorte qu'elle a pu donner le champ à son mari. Alors, on voit toute la méchanceté de ça. Et à cause de ça, Dieu a prononcé une sentence de mort sur Achab. Regardez le verset 17 à 19. « Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, ça c'était le prophète de Dieu, le Tishbite, en ces mots, « Lève-toi! » Descends au-devant d'Achab, le roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Alors, la sentence de mort était prononcée sur ce méchant roi, sur cet homme vilain. Et regardez maintenant le verset 27 à 29, ce qui s'est produit par la suite. « Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. » Donc, il a été frappé par la sentence qui a été mise sur lui, par ce qui allait lui arriver. Et l'homme a commencé à comprendre la laideur de son geste. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. On voit que le roi ici a regretté vraiment ce qu'il avait fait. Il était vraiment malheureux de ça. Ce qu'il a fait, il a jeûné. Il a humilié son âme devant Dieu. Quand on jeûne, quand on se prive de nourriture et de breuvage pendant 24 heures ou parfois plus, à ce moment-là, on humilie notre âme devant Dieu pour s'approcher de lui, pour lui demander pardon de nos fautes et lui demander son aide. Et regardez comment Dieu réagit. Il dit, « Et la parole d'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Alors voyez-vous, comment Dieu a été touché, comment Dieu s'est laissé impressionner par l'attitude nouvelle de cet homme-là qui a regretté ce qu'il avait fait et qui a humilié son âme devant Dieu. Je vous dis ceci en commençant le message pour vous montrer que Dieu est sensible, très sensible, à une attitude de repentance, à une attitude de quelqu'un qui reconnaît ses fautes et qui veut changer et qui va jusqu'au point de s'humilier devant Dieu en jeûnant pour s'approcher de lui. J'ouvre une parenthèse, d'où l'importance pour nous, en approchant la fête de la Pâque et des pains sans levain, de jeûner aussi pour s'approcher de Dieu. Et Dieu sera sensible à votre geste de ce côté-là, parce qu'il verra que vous voulez vous approcher de lui, que vous voulez faire mieux que dans le passé, comme moi aussi j'ai à faire mieux que dans le passé, et il va nous donner son aide, il va nous encourager. La repentance, je reviens à ça, c'est une attitude essentielle. Mais pas seulement une fois en passant. Parce qu'il est arrivé dans le passé que certaines personnes se sont repenties à un moment donné ou pendant une certaine période de temps et ont cessé par la suite de se repentir. Et le risque est de tout perdre dans ce cas-là aussi. Il faut que notre repentance soit continuelle et permanente jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Christ. C'est ça, parce que si on diminue de se repentir, si on s'éloigne de Dieu et qu'on voit moins bien les choses et qu'on retourne dans nos anciennes voies, on risque de perdre notre vie éternelle. Il faut que cette attitude-là reste avec nous tout au long de la route jusqu'au retour de Jésus-Christ, même si à aucun moment donné, le long de la route, on sera parfait. Il faudra continuer à travailler vers la perfection. Ça, il ne faut pas que ça nous décourage, qu'on ne soit pas parfait, qu'il nous arrive encore de tomber, de manquer notre coup, soit par faiblesse, par ignorance ou autrement. Mais à ce moment-là, quand on demande pardon à Dieu, il nous pardonne et on continue le combat, tout simplement. Mais on continue vers le but. Et ce qu'on fait pour s'en aller dans cette direction-là d'une façon qui plaise à Dieu, c'est qu'on continue, d'ici le retour de Christ, de nous examiner. On s'examine régulièrement. Et plus particulièrement quand arrivent les fêtes du printemps, parce que l'accent est mis là-dessus. C'est le sens des fêtes, justement. La fête des pains sans levain représente la part qu'on a à faire, nous, pour éliminer le mal de nos vies. Il y a un très bon résumé de notre démarche à faire qu'on trouve dans Michée. Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6, et on va lire le verset 8. C'est un très bon résumé de ce que Dieu attend de ceux qui l'appellent. Dieu n'appelle pas tout le monde maintenant, seulement un tout petit troupeau. Et ceux qui l'appellent ont la responsabilité de répondre. Il dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Et c'est vrai, quand Dieu nous appelle, il nous montre quelles sont ses lois. Et on reste surpris parfois de découvrir quelles sont ses lois. Parce que souvent, on ne les a pas appris ou on ne les a pas compris ou on ne les mettait pas en pratique de toute façon. Il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et à ceux que Dieu appelle, Dieu révèle ses lois. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, maintenant il précise, c'est que tu pratiques la justice. Parce qu'avant, on avait notre propre façon de voir les choses. Ça, c'est notre justice humaine. Moi, je pense que c'est correct de faire telle chose. Moi, je pense que ce n'est pas grave de faire telle chose. Ça, c'est ma justice humaine. Dieu dit, la justice humaine, c'est un vêtement souillé. C'est marqué dans les textes. Mais Dieu dit, c'est que tu pratiques la justice de Dieu, qui est la mise en pratique de ses commandements. Deuxièmement, que tu aimes la miséricorde. Et troisièmement, que tu marches humblement avec ton Dieu. Et on va voir globalement ce que ça peut vouloir dire et le lien que ça a avec notre approche des fêtes du printemps et avec le fait de vivre de tout cœur la fête des pains sans levain qui s'en vient. Est-ce que vous pratiquez la justice, vraiment? Est-ce que je pratique vraiment la justice? Je m'efforce de le faire et je sais que vous vous efforcez de le faire. Mais on doit encore aller plus loin dans ce sens-là. Est-ce que je suis honnête? On peut se poser ce genre de questions-là. Est-ce que je suis honnête dans tout ce que je fais? Dans ma façon de parler? Dans ma façon de faire les choses avec les gens autour? Est-ce que je suis honnête selon Dieu? Est-ce que je respecte ma parole donnée? Deuxième chose, est-ce que je réfléchis avant de donner ma parole pour voir si je vais être capable de la garder? Mais après que je l'ai donnée, ne pas reculer, de faire exactement l'engagement que j'avais donné. Autre exemple, ne pas voler. Rien. Ne pas voler de biens à personne d'autre. Ne pas voler sur mon rapport d'impôt. On vient de faire nos rapports d'impôt. Être honnête dans nos rapports d'impôt, ne pas voler l'argent qui revient à l'État. La Bible nous dit de respecter l'autorité et de payer les impôts. Le Christ en a parlé même dans ces termes-là. Rendez à Dieu la dîme qui lui revient et à César, c'est-à-dire au gouvernement humain, les montants d'argent qui doivent être donnés là-bas. Donc, ne pas voler. Ne pas voler non plus la réputation de personne par des propos négatifs envers des gens. Monsieur Appartient avait souvent l'occasion de nous dire, si vous n'avez rien de bon à dire de quelqu'un, ne parlez pas. Si on pense à cette règle-là, puis qu'on l'applique, vous allez voir, on va dire pas mal moins de choses des gens autour de nous. Si on se limite à dire des choses bonnes des personnes, tout simplement. Dans le fond, c'est la loi de donner plutôt que de prendre. De donner, de souligner les qualités de quelqu'un plutôt que ses défauts ou ainsi de suite. Et plutôt que de prendre de l'argent ou des choses qui ne nous appartiennent pas, de donner, d'être plus généreux envers les autres, envers l'Église, envers l'œuvre et ainsi de suite. Allez dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Il y a énormément dans la Bible concernant la façon de célébrer la fête des pains sans levain et la façon de plaire à Dieu, de pratiquer sa justice. Jacques 1, versets 22 à 27. Mettez en pratique la parole. On a vu tantôt dans Michée, il dit, je vous ai révélé mes voies. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Certaines personnes ont l'impression de bien faire parce qu'ils connaissent la loi de Dieu. La connaître ne suffit pas. Ça ne donne absolument rien si je ne la mets pas en pratique. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et on sait que le cœur humain est tortueux par-dessus tout et c'est facile pour nous, êtres humains, de trouver des moyens détournés de faire les choses à notre façon. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. J'avais une saleté sur le visage, je me suis vu dans le miroir. Je l'ai laissé là, je suis parti ailleurs. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et regardez Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Voyez-vous, il ne suffit pas de croire en Dieu, il ne suffit pas de croire Dieu, il ne suffit pas de connaître ses lois, mais pour que ma foi soit vivante et active, il faut qu'elle ait des œuvres, il faut que j'agisse selon ces lois-là. Alors, pratiquer la justice, je l'ai résumé en gros, c'est ça. Aimer la miséricorde maintenant. Est-ce que j'ai de la miséricorde pour les autres? Les gens qui me font des choses. Est-ce que je suis patient pour ceux qui parfois peuvent m'irriter? Et c'est automatique. Je suis certain que moi, j'irrite d'autres personnes par ma façon de faire à l'occasion, même sans vouloir. Alors, est-ce que quand les autres agissent comme ça envers moi et que je me sens pas bien, est-ce que je me contrôle et que je laisse passer les choses? Est-ce que j'ai de la patience, de la miséricorde envers les autres? Est-ce qu'on a cette sorte de considération-là? Je vais plus loin. Quand Dieu a dit, comme deuxième point dans Michée, exercer la miséricorde, est-ce que je pardonne aux autres qui me font du tort ou qui m'offensent? Est-ce que je suis capable de pardonner? Est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que j'ai pardonné à des gens qui m'ont fait énormément de tort ou de mal il y a longtemps dans le passé? Ou si je traîne encore dans mon bagage intérieur la misère de l'amertume ou d'en vouloir à quelqu'un. À ce moment-là, je suis doublement victime. Non seulement je l'ai été dans le passé, mais si je n'apprends pas à pardonner comme Dieu me dit de pardonner, je ne sors pas de cette misère-là, je l'amène avec moi et je continue d'en souffrir. C'est pour ça que Dieu veut nous libérer et qu'il nous dit, vous qui avez tous péché, pour être pardonné, vous devez d'abord pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Et après, moi, je vais vous pardonner tout ce que vous avez fait dans votre vie passée. Et si vous vous trompez encore et que vous continuez de vous repentir, je vais vous pardonner encore. Ça va ensemble, mais c'est une libération extraordinaire que de pardonner à ceux qui nous ont fait des choses et d'être capable de vraiment, vraiment tourner la page. Pas parce qu'il ne restera pas de cicatrices. La mémoire ne s'efface pas totalement, mais ça va devenir de moins en moins douloureux si vous avez vraiment pardonné. Et si vous n'êtes pas capable de pardonner, moi je connais quelqu'un qui peut vous aider. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu et je l'ai vu à plusieurs reprises dans le passé de la part de gens qui avaient subi des choses atroces et qui, avec l'aide de Dieu, dans le temps, ont réussi finalement à pardonner puis à sentir cette libération-là puis à commencer une vie nouvelle. L'esprit paisible et le cœur paisible aussi. Comprenez-vous pourquoi Dieu dit dans la démarche pour lui plaire que nous, on doit exercer la miséricorde? Parce qu'il veut nous libérer. Il ne veut pas qu'on reste attaché à des fautes qu'on traîne de nous ou de la part d'autres. Troisièmement, le troisième point qu'on a vu dans Miché, marcher humblement avec Dieu. Dieu sait tout. Dieu veut qu'on marche avec lui, là, le cœur ouvert. Qu'on aille devant lui à genoux, qu'on lui dise nos problèmes, nos difficultés, les choses qu'on ne comprend pas, les choses qu'on a de la difficulté à accepter, pour qu'il nous aide à les accepter. Être capable de passer tout droit puis continuer notre chemin avec son aide. Et là-dessus, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment intéressant. Psaume 32. Psaume 32. Ça vaut la peine qu'on s'y rende. Parce que c'est une clé aussi pour être sur le chemin de la paix intérieure puis du bonheur réel. Psaume 32. On a vu tantôt qu'il faut apprendre à pardonner. Mais ici, on doit apprendre à faire d'autres choses aussi. Marcher humblement avec Dieu, c'est-à-dire reconnaître toutes nos fautes, être vraiment transparent par rapport à lui. Ne rien essayer de lui cacher. Il sait tout. Vous ne pouvez rien lui cacher. Et ça va lui faire plaisir si vous vous confiez totalement à lui. Regardez le psaume 32 ici, le verset 1 et 2. « Heureux celui à qui la transgression... » On va commencer au verset 3, pardon. Verset 3. David dit ceci. « Tant que je me suis tu... » Autrement dit, tant que j'ai gardé le silence concernant les fautes que j'avais commises, tant que je ne les ai pas reconnues et admises devant Dieu, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Je subissais le poids de ces fautes-là qui n'avaient pas été pardonnées et que je gardais en secret. » C'est intéressant ce que David raconte comme expérience ici. Il dit, « Tant que je n'ai pas demandé honnêtement, totalement pardon à Dieu de certaines fautes, ça n'allait pas dans moi. Mes os se consumaient. J'avais des problèmes même de santé physique, on va dire, de ce côté-là. » Et regardez versets 1 et 2 maintenant. « Heureux celui à qui la transgression est remise. » Donc, heureux celui qui a reconnu ses fautes devant Dieu, qui a demandé pardon. À qui le péché est pardonné. Et Dieu ne demande pas mieux que de nous pardonner, mais il veut qu'on reconnaisse d'abord toutes les fautes qu'on a commises. Heureux l'homme, verset 2, à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Parce qu'une fois que c'est pardonné pour lui, ça n'existe plus. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Alors, voyez-vous, il ne doit pas y avoir de fraude dans mon esprit. Je ne peux rien cacher à Dieu et je dois avoir l'esprit totalement ouvert en ce qui concerne d'avoir vraiment une attitude ouverte totalement. Même dire à Dieu, s'il y a des fautes que je ne vois pas, montre-moi-les pour que je fasse ta volonté. C'est intéressant de voir, aller dans Genèse chapitre 6, dès le début de l'histoire humaine. Vous avez ici l'histoire de Noé. Et Noé marchait avec Dieu. On a vu que c'était la troisième exigence de Dieu pour ceux que Dieu appelle. en plus d'exercer la miséricorde et de pratiquer la justice, on doit marcher avec Dieu, c'est-à-dire faire sa volonté. Et Noé est un exemple frappant de ce côté-là. Regardez le verset 9, Genèse 6. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Allez au verset 22. C'est après la construction de l'arche qui a duré très longtemps, une centaine d'années. Dieu lui avait demandé de construire une arche, de faire les choses de telle façon. Il annonçait les choses qui allaient venir aussi. C'était un enseignant de Dieu, un prophète de Dieu, un ministre de Dieu. Et regardez, Noé a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Et au verset 22, il est écrit, « C'est ce que fit Noé, tout ce que Dieu lui avait demandé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Il marchait avec Dieu, c'est-à-dire qu'il s'est appliqué à faire sa volonté. Est-ce qu'il était parfait? Oh non, il n'était pas parfait. Puis quand vous regardez les récits, vous voyez que Noé a péché aussi, et on ne mentionne pas tous ses péchés, heureusement. C'est la même chose pour tous les êtres humains. Même chose qu'Abraham, le père des croyants. On voit qu'Abraham a commis plusieurs fautes, et parfois importantes. Dieu a pardonné, Dieu l'a aidé, comme il fait avec nous, comme il fait avec Noé. Mais quand il voit l'attitude qu'on a de vouloir se purifier totalement, d'enlever tout le levain de notre vie, graduellement, en s'en allant vers le royaume, à ce moment-là, Dieu peut dire de vous et de moi, si nous faisons ça, voici une personne juste et intègre au temps de la fin. Et ça, c'est encourageant. Si vous êtes en train de faire ça, même si vous n'êtes pas parfait, Dieu dit de vous, vous êtes intègre et juste en les temps où nous sommes. Et ça, c'est tellement encourageant. Vous savez, Dieu a un projet extraordinaire. M. Armstrong avait grand plaisir à l'expliquer. Le projet de Dieu, c'est un projet de famille, de se faire une famille spirituelle, d'êtres humains, pour le moment, qui vont devenir des êtres divins, immortels, ayant la vie éternelle, qui vont œuvrer avec lui et son Fils pendant toute l'éternité. C'est pour ça qu'actuellement, il appelle quelques individus, qu'il leur donne son Saint-Esprit pour que ces personnes-là soient capables de changer et de comprendre son plan, et d'être capable d'aller plus loin. Changer dans une démarche de repentir constant, jusqu'au retour de Christ. Je reviens à ça parce que c'est un élément important. Il ne faut pas ralentir. Il nous arrive parfois d'avoir certains ralentissements, mais il ne faut pas que ça dure. Il faut retourner tout de suite vers Dieu pour reprendre le chemin, reprendre la course de bonne façon, repentir constant. D'ici notre naissance spirituelle, Jean 3, verset 6, le Christ a dit ceci, « Ce qui est né de la chair est chair. » Ça, c'est vous puis moi aujourd'hui. Nous sommes des êtres humains charnels, physiques. Et là, après, il donne la dimension de ce que nous allons devenir si nous sommes fidèles à Dieu, si nous changeons avec son esprit. Il dit, « Ce qui est né de l'esprit est esprit. » On n'est pas encore rendu là, on a une partie de son esprit avec nous pour être capable de comprendre ou en nous, si nous sommes baptisés et que nous avons reçu l'imposition des mains de la part d'un ministre de Dieu. Dieu est en train de travailler avec nous pour nous amener à terme. Mais actuellement, on s'en va vers l'immortalité, on ne l'a pas encore. Pour recevoir l'immortalité, pour recevoir la vie éternelle, il nous faut nous examiner régulièrement tout au long de notre vie et continuer à changer. Pourquoi? Pour devenir comme le Christ, qui est notre standard, notre modèle parfait. Et en imitant ceux qui l'ont imité, comme l'apôtre Paul, comme M. Appartient, comme M. Armstrong, ce n'était pas des gens parfaits, mais c'est des gens avec qui Dieu a travaillé et qui avaient à cœur de changer, et qui l'ont fait jusqu'au bout, qui se sont endormis dans la foi. Paul l'explique clairement. Regardez dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. On va lire le verset 17 à 21. Regardez ce que Paul dit. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez reçu en nous. » Voyez-vous, il faut avoir des modèles. Et ces modèles-là, on les trouve dans les serviteurs de Dieu, dont la vie est décrite dans la parole. Et ces modèles-là, on les trouve chez les vieux serviteurs de Dieu qui sont là, qui nous enseignent dans l'Église et qui sont fidèles. C'est eux qu'on doit imiter, comme Paul dit. Et Paul dit ailleurs, « Soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Christ. » Mais oui, il y a une seule façon de faire les choses, et nous devons avoir cette même façon-là, nous, pour devenir comme le Christ. Car, verset 18, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Et voyez-vous, même parmi ceux qui ont été appelés dans le passé, certains se sont mis à marcher en ennemis de la croix. Ils avaient connu, mais ils se sont mis à marcher en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul était attristé profondément de voir ces gens-là qui avaient perdu leur route. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et certains sont retournés exactement dans les choses mondaines de transgression où ils vivaient avant. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et regardez le verset 20. « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. » Notre citoyenneté, ce n'est pas une citoyenneté canadienne, française, martiniquaise, africaine ou quoi que ce soit. C'est une citoyenneté céleste. Parce que nous appartenons à la famille divine. C'est ça notre citoyenneté. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, parce qu'on attend son retour, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, notre corps physique, limité, qui a des douleurs, qui vieillit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on deviendra des êtres spirituels, composés entièrement d'esprit, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Un autre petit moyen, maintenant, de s'examiner, pas seulement au moment des fêtes du printemps, mais dans toutes sortes de circonstances qu'on vit régulièrement, c'est de se poser une question. Lorsqu'on arrive devant certaines circonstances ou qu'on a une décision à prendre ou qu'on a une croisée de chemin, ou qu'on a à réagir devant quelque chose qui nous est offert ou présenté rapidement, M. Meredith nous a donné une clé importante, je trouve. Et je m'en suis toujours rappelé, et en préparant le message aujourd'hui, ça m'est revenu. M. Meredith disait, « Quand vous arrivez dans une situation comme ça, demandez-vous toujours, que ferait le Christ s'il était à ma place? » Si le Christ était à ma place dans mes circonstances, dans ma situation, lui qui est le Dieu parfait, qui n'a jamais transgressé les lois, qu'est-ce qu'il déciderait? Comment il réagirait devant la personne qui est devant moi? Qu'est-ce qu'il ferait? Et ça, ça m'aide à faire les choses de bonne façon. Et encore là, ça peut nous aider, j'avais vu cet exemple-là aussi. Si certaines personnes ont tendance, par exemple, à regarder des choses qu'ils ne devraient pas regarder, soit Internet ou la télévision, le genre de film, le genre de situation de sexualité perverse ou le genre de violence ou quoi que ce soit, dites-vous une chose. Et M. Meredith nous lançait la même question. Si le Christ était assis avec vous, sur le divan où vous êtes, est-ce que vous regarderiez la même chose? Déjà, ça répond à votre question, là. Et ça peut nous aider à savoir la réponse à plusieurs choses puis à faire les bons choix. Est-ce que vous êtes proche de Dieu? Est-ce que je suis proche de Dieu? Est-ce que je m'approche de lui chaque jour? Si je ne le fais pas, je ne sais pas si vous réalisez, mais je transgresse des lois. Parce que Dieu n'est pas en premier dans ma vie. Dieu n'est pas le seul et il n'est pas le premier dans ma vie. Et le premier commandement, il dit bien, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, j'ai d'autres choses de plus important que lui. Je ne prie pas, je n'étudie pas, ou très peu. Si c'est le cas, c'est que j'ai un autre Dieu à la place du vrai Dieu. Et je suis en danger de m'éloigner et de faiblir spirituellement. Si jamais c'était votre cas, revenez, dépêchez-vous, le temps se fait court, les jours sont mauvais. C'est le temps de s'approcher de Dieu et non pas de s'éloigner de lui. S'approcher de lui, c'est de lui parler chaque jour en prière. Une bonne période assez longue chaque jour. De préférence le matin en commençant, alors qu'on a l'esprit tranquille et que notre journée n'est pas entreprise, et à d'autres moments de la journée, lorsqu'on peut prendre quelques instants. Et aussi chaque jour, par l'étude de sa parole, au moment qui nous convient. Et par la réflexion aussi, en réfléchissant à ce qu'on a lu, ce qu'on appelle la méditation. Ça, c'est la façon de s'approcher de Dieu. Chaque jour, là. Et assez régulièrement, le plus régulièrement qu'on peut, jeûner. On a vu tantôt, par l'exemple que je vous ai donné, comment Dieu est sensible à ceux qui vont jusqu'à jeûner pour le supplier de leur donner de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre pour terminer le travail d'ici la fin. Dieu répond toujours. C'est marqué dans Jacques 4, verset 8. approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voyez-vous, si vous faites la démarche de lui demander son aide pour faire sa volonté, Dieu va vous répondre. Soyez assurés de ça. Dieu est fidèle, toujours. Il y a un exemple frappant dans le livre de Daniel à ce sujet-là. Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, on va lire le verset 1 à 5. Dieu est sensible à l'attitude de quelqu'un qui se repent, qui demande à Dieu l'aide pour faire sa volonté. Daniel 9, verset 1 à 5. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem à cette époque-là. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc, Daniel lisait les livres du prophète Jérémie, les mêmes livres qu'on a aujourd'hui, nous. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, voyez-vous, et aux supplications, pas des prières faites du bout des lèvres, mais en insistant, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, je prie l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements. Et là, ensuite, il fait sa demande et il a eu sa réponse. Vous pourrez lire le reste du contexte. Dieu lui a répondu de façon éclatante après ça parce qu'il y a un ange qui est allé le voir et qui lui a révélé les choses qu'il avait besoin de comprendre à ce moment-là. Maintenant, je m'arrête ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce petit événement ici? Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a, un, étudié la parole de Dieu. Il a lu dans Jérémie. Il étudiait la parole, comme on doit faire nous chaque jour. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu. Il a parlé à Dieu, et pas du bout des lèvres, mais avec supplication, comme il dit là. Et donc, il a réfléchi à ces choses-là, il a médité à ce qu'il avait lu, et il a présenté sa méditation devant Dieu en prière, une prière persistante et une prière de supplication. Et en plus, il a jeûné. Je viens de vous expliquer avant comment on peut s'approcher de Dieu pour s'assurer que lui s'approche de nous. Daniel a fait exactement ça. Et on le voit étape par étape ici, dans ce passage-là. Et je reviens sur le verset 5, par contre. Nous avons péché. Daniel dit à Dieu, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce que Daniel fait ici? C'est que Daniel reconnaît les fautes de la nation et ses fautes à lui. Et ça, c'est une autre étape que nous devons faire. On ne doit pas se taire par rapport aux fautes qu'on a commises, mais les reconnaître devant Dieu. Maintenant, je vous pose une question qu'un évangéliste a déjà posée à l'approche des fêtes du printemps comme ça, qui m'avait surpris sur le coup, mais il ne faut pas que ça nous surprenne parce que parfois, certaines personnes s'affaiblissent et perdent de vue les choses qu'elles doivent faire. Et la question, je vous la pose aujourd'hui à vous, individuellement, c'est à vous de répondre intérieurement. Est-ce que récemment, vous avez reconnu des fautes face à Dieu? Est-ce que vous avez récemment reconnu des fautes face à Dieu? En allant sur vos genoux, en spécifiant à Dieu les erreurs que vous aviez commises ou les faiblesses que vous avez eues, en lui expliquant ce que vous aviez fait et en lui demandant de vous laver de ces fautes-là. Est-ce que vous l'avez fait récemment? Si vous ne l'avez pas fait récemment, moi je vous dis attention. C'est une lumière rouge. C'est une lumière d'urgence. Si vous ne l'avez pas fait et si vous ne le faites pas régulièrement, parce qu'on pêche régulièrement, on a besoin de demander à Dieu, à tous les jours, de nous pardonner les fautes qu'on a faites et qu'on se rend compte, et même de lui demander pardon des fautes qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on a sûrement faites au cours de la journée. Mais si on ne le fait plus, qu'on ne voit plus l'importance de ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est en train de subir ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. On ne voit plus. On n'a plus la bonne vision des choses, comme ceux de Laodicée. C'est le problème de l'Église de Laodicée qui va devoir passer par la grande détresse. Le Christ dit à ces gens-là, « Vous êtes aveugles et nus. Vous ne voyez plus vos fautes. Vous pensez que parce que vous avez la connaissance, que tout est réglé pour vous, et vous ne changez pas suffisamment, et vous n'avez pas à cœur et de vraiment changer et de faire sa volonté. C'est pour ça qu'il dit un petit peu plus loin dans Apocalypse 3, à ceux de Laodicée, « Aie donc du zèle et repens-toi. » Avoir du zèle dans le repentir, voyez-vous? « Aie donc du zèle et repens-toi. » Ça ne veut pas dire de se repentir du bout des lèvres, mais un regret profond et un désir de changer. Un autre point d'examen que je me pose à moi-même et que je vous pose pour qu'on prépare les fêtes de façon agréable à Dieu et qu'on avance vraiment. Est-ce que j'ai déterminé, est-ce que j'ai vraiment décidé de façon bien arrêtée de faire chaque jour ce qu'il faut, quelles que soient les circonstances et quels que soient les risques? Quelles que soient les circonstances et quels que soient les risques. Vous pourrez aller voir dans Daniel 6 et le verset 10, vous retrouvez Daniel dans cette circonstance où ça a été défendu à quiconque de prier quelqu'un d'autre que le roi Nebuchadnezzar. Tout de suite, Daniel a continué d'aller dans sa chambre et prier Dieu à genoux trois fois par jour, comme il mentionnait là, avec les conséquences qu'il a été jeté dans la fosse au lion. Vous connaissez l'histoire. Alors, quels que soient les risques, est-ce que j'ai déterminé d'avance de faire chaque jour ce que je dois faire? Vous savez, je ne vous apprendrai rien. Je ne connais pas encore toutes mes fautes. Je ne les connais pas encore, toutes mes fautes. Peut-être que vous en connaissez plus sur mes fautes, des choses que j'ai à changer, que moi j'ai à changer. Peut-être ma femme pourrait dire que certaines choses je devrais changer plus. Vous savez, quelqu'un qui est proche de nous, il voit nos petits défauts, il voit nos travers, il voit nos faiblesses. Et c'est ça, c'est la réalité des choses. Je n'ai pas fini, et vous non plus. C'est pour ça qu'il faut continuer d'être constant, de demander à Dieu de nous montrer. Mais c'est fascinant de voir comment Dieu est un Père tendre et aimant. Il ne nous donne pas de connaître nos fautes d'un seul coup pour ne pas nous décourager, pour nous aider à aller plus loin. Mais si j'ai à cœur de pratiquer sa justice, je lui demande de me montrer mes fautes et de m'aider à m'en sortir. David dit dans Psaume 19, verset 13, « Qui connaît ses égarements? » C'est vrai. Est-ce que je connais vraiment tous mes égarements? Non, je ne les connais pas tous. C'est pour ça que je peux demander à Dieu de me les faire connaître et de me pardonner. De nous montrer nos fautes afin qu'on progresse, qu'on avance vers la perfection dans la purification. Je vais plus loin, je pose d'autres questions pour nous préparer pour la fête des pains sans levain et la Pâque. Est-ce que vous êtes enseignable? Vous allez dire oui, oui. Moi, je peux être porté à dire la même chose, mais est-ce que vous êtes vraiment enseignable? Quand on vient à l'Église et qu'on commence à s'intéresser aux choses, on est enseignable, on veut apprendre. Et plus qu'on met ces choses-là en pratique, plus que Dieu nous révèle des choses. Et on doit devenir encore plus enseignable. Mais après quelques années, est-ce que je continue à être encore enseignable? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, c'est ceux qui sont enseignables, justement, qui ont un cœur bien disposé. Si vous êtes enseignable encore, et si je suis encore enseignable, il y a une façon bien simple de le connaître, de le savoir. Est-ce que je relis encore les mêmes choses que j'ai lues plusieurs fois, en y mettant mon cœur, même si c'est des choses que j'ai déjà vues? Est-ce que je m'attable à écouter des sermons qui ressemblent étrangement parfois à d'autres sermons que j'ai entendus, parce que justement je dois approfondir et que je dois solidifier ma foi et me nourrir de la parole de Dieu? Si je le fais, bien sûr, on n'a pas toujours la même fraîcheur physique pour être capable de suivre facilement, mais est-ce que mon intérêt est là pour me nourrir de la parole de Dieu dans ce sens-là chaque jour? De reviser mes notes, de reviser les brochures, de revoir le cours de Bible, ce genre de choses-là. Est-ce que je le fais? Si je le fais, oui. J'approfondis la parole de Dieu et je continue d'être enseignable. Est-ce que vous êtes capable d'accepter la correction? C'est important, parce que quand Dieu nous appelle, les premières choses qu'il fait, il nous corrige. Parce que là, il dit, regardez, vous observiez le dimanche, le jour du Dieu soleil. Maintenant, je vous révèle que le jour qui m'honore, c'est le jour que moi j'ai mis de côté, que j'ai sanctifié, c'est le samedi, c'est le sabbat. Alors ça, c'est une correction. Alors là, soit je l'accepte ou non, j'ai le choix. Mais si je veux plaire à Dieu et si je veux m'inscrire dans sa famille, vers le royaume, vers la vie éternelle, je dois me laisser corriger et agir en conséquence. Est-ce que j'accepte les collections qui viennent de la Bible quand je fais mes lectures? Est-ce que je regarde ce qui s'adresse à moi, dans le fond? Parce que tout s'adresse à moi si je n'ai pas changé encore tout ce que j'ai à changer. Est-ce que j'accepte les collections qui me viennent de mes supérieurs, des ministres qui sont en dessus de moi ou des ministres qui sont immédiats? Est-ce que j'accepte les collections ou les remarques d'un frère ou d'une sœur dans l'Église qui ont remarqué que j'avais un problème avec quelque chose? Si quelqu'un a un problème de boire trop, par exemple, de prendre trop d'alcool, et que je m'en rends compte, ben, en tant que frère, je vais peut-être lui dire, est-ce que c'est pas un petit peu trop, alors que la Bible nous montre qu'on peut prendre de l'alcool, de la boisson, mais de façon modérée, pour garder toujours le contrôle de soi-même. Mais vous, c'est une correction affectueuse à un frère qui risque de s'en aller dans des problèmes encore plus graves. Alors, voyez-vous, si on est à l'affût de changer soi-même, on cherche à corriger notre tir. C'est ça, des corrections. Quand un avion s'en va vers son point de destination, elle fait des milliers de corrections en cours de route. C'est des systèmes électroniques, là, des corrections qui se font. C'est des corrections pour arriver au but. Et nous, c'est la même chose. On doit faire des corrections pour arriver au but. Autre question. Est-ce que vous et moi, est-ce que nous sommes consciemment déterminés à maintenir cette attitude d'examen de soi et de repentir jusqu'au retour du Christ? Est-ce que je suis constamment déterminé à maintenir cette attitude-là, à avoir mes petites antennes pour voir ce que je peux changer encore? Et quand on me montre, soit la Bible, soit un frère, soit un ministre, ou qui que ce soit, quand on me montre que j'ai des choses que je devrais changer, est-ce que ma première réaction, c'est de dire, je vais y penser, puis je vais, si c'est vraiment le cas, je vais changer, je vais demander à Dieu son aide? Continuez-vous de le faire, ou si, sans trop le réaliser, vous avez diminué ou ralenti par négligence, par usure du temps ou par impression de routine, cessez de le faire. Si je cesse de le faire, je suis à risque. Et je retourne dans le monde parce que le monde ne se repent pas. Le monde ne regrette pas ce qu'il fait. Le monde fait ce qu'il fait, puis il a plaisir à faire ce qu'il fait. On le sait, on le voit. Même dans les choses extrêmement mauvaises, il y a des gens qui volent, qui n'est jamais assez, même s'ils mettent les autres dans des situations épouvantables. Il y a des gens qui massacrent d'autres gens, qui sont fiers de le faire. Vous le voyez dans les bulletins de nouvelles. Les gens ne se repentent pas, absolument pas. Et les religions du monde ne prêchent pas non plus qu'il faut changer. Ils ne prêchent pas le repentir. Sinon, certaines peut-être du bout des lèvres, mais trouverez-moi une religion qui va dire aux gens, vous devez changer telle chose, telle chose, telle chose, changer l'ensemble de vos comportements pour les aligner sur les voies divines. Absolument pas. Il y a une toute petite église qui le fait, les serviteurs de Dieu, l'église du Dieu vivant. Parce que c'est notre responsabilité de préparer un peuple pour Dieu qui va servir l'humanité, qui va aider l'humanité. C'est la base. Le repentir, c'est la base. C'est pas pour rien que dès le début de son ministère, vous regardez ça dans Marc 1, verset 14-15, le Christ, quand il a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le repentir, c'était la base, c'était le début. Et le repentir, c'est plus que de regretter. C'est plus que d'être attristé seulement pour un temps. C'est un choix. C'est une décision constante de se mettre à obéir à Dieu et de pratiquer ses lois. C'est intéressant, j'ai retrouvé une définition que M. Armstrong donnait du repentir, justement, et qui décrit très bien. La repentance, c'est un changement de mentalité et d'attitude. Voyez-vous, ça commence à l'intérieur. La repentance, selon Dieu, c'est un changement de mentalité, de façon de penser et d'attitude. Les attitudes, ça, c'est ce qui en suit, les façons de faire. C'est un changement de notre attitude charnelle envers Dieu et de notre rébellion contre ses lois pour adopter une attitude contraire, c'est-à-dire une attitude d'amour, l'amour de Dieu, qui consiste à mettre en pratique ses commandements. Vous savez, tous les êtres humains au départ, par nature, on a une nature humaine au point de départ, ne veulent pas se soumettre à Dieu, et j'ajoute une chose qui est bien importante, et ne peuvent pas se soumettre à Dieu. Ils ne peuvent pas se soumettre à Dieu. On ne peut pas reprocher à qui que ce soit de ne pas comprendre les vérités bibliques et de ne pas se mettre en action pour obéir à Dieu. Ils ne le peuvent tout simplement pas. Quand ils seront appelés, Dieu va leur donner ce qu'il faut pour être capable de se mettre en marche. Voyez-vous? Nous, on a à le faire maintenant. Et non seulement se mettre en marche, mais se rendre au but si on ne veut pas tout perdre. Romains 8. Romains chapitre 8. C'est très clair ici. Romains chapitre 8. Et regardez ce que dit le verset 7. L'affection de la chair. L'affection de la chair, ça, c'est notre nature humaine au point de départ, avant que Dieu nous appelle. Pour tous les êtres humains, qui qu'ils soient, l'affection de la chair, c'est la nature humaine. C'est l'amour pour nous-mêmes. Et c'est l'amour du monde. Aimer être aimé par les autres autour et faire ce que les autres font pour ne pas être critiqué. L'affection de la chair, donc la nature humaine, elle est inimitié contre Dieu. Est-ce que c'est assez clair? C'est ennemi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le fait pas de façon naturelle, elle est contraire à ça. Et deuxièmement, et qu'elle ne le peut même pas. C'est ça que je vous disais, elle ne le peut même pas. Et tant que Dieu ne vous a pas appelé, vous ne pouviez pas le faire, ni le comprendre, ni avancer dans ce chemin-là. Regardez versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, qui font les choses du monde, avec toutes ces transgressions de la loi, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, à la façon de vivre que Dieu nous montre. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. On peut avoir, oui, des circonstances difficiles, mais on peut avoir la paix d'esprit au milieu de circonstances extrêmement difficiles. Comme Daniel, on le voit clairement dans ses écrits, Daniel avait la paix d'esprit au milieu de circonstances extrêmement difficiles. Les voix puis les attitudes du monde ont tellement envahi nos cœurs depuis qu'on est tout petit qu'on ne peut tout simplement pas les éliminer tout d'un coup. On ne peut pas les éliminer tout d'un coup. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il faut croître dans la grâce et dans la connaissance. Il y a une croissance graduelle. Le développement en nous du caractère de Dieu se fait dans le temps. Dans le temps. Ça veut dire des choix, ça veut dire des décisions, volonté, diligence, ténacité, persévérance. Ça veut dire aussi une soumission de notre part, là, totale. On n'y arrive pas tout d'un coup, mais un désir de soumission totale et inconditionnelle à notre grand Dieu, notre Créateur, notre Sauveur et à ses voies. Ça veut dire aussi un désir réel de changer totalement. On est engagé sur une voie où il n'y a pas de retour. Une fois qu'on a signé le contrat de l'alliance du baptême, il n'y a pas de retour. Il nous faut arriver au but, réussir, pour ne pas tout perdre. Et c'est pour ça qu'il nous faut garder le vrai repentir selon Dieu, celui qui mène à la vie éternelle. On a vu dans un psaume qu'on a chanté tantôt au début de l'Assemblée, ça donnait juste bien, ça m'a encouragé parce que ça allait directement avec le sermon. Ésaïe 66, verset 2, Dieu dit sur qui il porte les regards, à qui il porte son attention particulière pour les aider. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Voyez-vous, la personne qui souffre de voir tout le mal qu'elle a fait, qui s'en repent, qui demande pardon, qui craint sa parole, qui veut faire sa volonté, elle souffre de ça, elle a l'esprit abattu, comme Lot avait quand il se tourmentait chaque jour à cause de tout le mal qu'il voyait autour, comme nous voyons de plus en plus, parce que nous sommes dans Sodome et Gomorre au temps de la fin, et on demande à Dieu que son règne vienne au plus tôt, ça va ensemble. Dieu porte ses regards sur ceux-là, sur vous et sur moi, si on persiste de souffrir, de ne pas avoir tout changé encore, mais qu'on demande son aide pour y arriver, et qu'on souffre de voir la souffrance autour de nous à cause des péchés de l'humanité. Le véritable repentir, selon Dieu, c'est un virage à 180 degrés, un détournement total de nos anciennes façons de faire, de voir, de parler. Vanité, convoitise, jalousie, ressentiment, que ce soit à tort ou à raison. Parfois, on a du ressentiment parce que quelqu'un nous a fait du mal. Et on a raison dans un sens, parce que le mal était réel. Et parfois, c'est un mal qui est perçu. On pense que quelqu'un a fait telle chose ou on s'imagine que Alors, c'est pour ça que je dis, du ressentiment, à tort ou à raison, on en a tous eu. On a tous vécu selon la loi de prendre. Et on doit encore continuer à développer le contraire, la loi de donner. Ne plus être en compétition. Développer la loi d'amour de Dieu, d'obéissance, de nous préoccuper des autres autant que de nous-mêmes. Hein? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous, on vient à troisième. On n'est pas éliminé complètement, là. On a des besoins, et Dieu veut qu'on s'en occupe aussi. Et on peut prendre plaisir à la vie et aux belles choses que Dieu nous donne. Mais il faut se préoccuper d'abord des autres. Alors, demandons à Dieu. Ça m'intéresse de le voir de cette façon-là, puis de lui en parler de même. Demander à Dieu de m'aider de me voir comme lui me voit. Parce que lui, il me voit, il voit comme à travers d'un courant d'air. Il sait exactement tout en ce qui me concerne. Mais de m'aider à me voir graduellement comme lui me voit. Donc, pour que je sois capable de voir mes erreurs, mes fautes, mes faiblesses, et que je puisse les changer, que je puisse m'en départir, m'en débarrasser. Allez dans Galates chapitre 5, s'il vous plaît. C'est un autre petit moyen facile qu'on peut prendre pour voir où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement spirituel, dans notre développement qui n'est pas terminé. Nous sommes en gestation actuellement dans l'Église vers la nouvelle naissance. L'Église, c'est comme notre mère. On est à l'intérieur de l'Église. Elle nous nourrit des enseignements de Dieu. Elle nous montre le chemin à suivre. Elle nous encourage. Elle nous guide. Et nous sommes en préparation pour la nouvelle naissance. Mais voici une autre façon de nous examiner ici. C'est des outils. Ici, il est question des œuvres de la chair, qui sont les actions mauvaises. Il est question des fruits du Saint-Esprit. Vous les connaissez. Les fruits du Saint-Esprit, ce sont les résultats des changements par le Saint-Esprit dans ma vie. Des résultats qui doivent devenir de plus en plus évidents. Alors, lisons ça rapidement ici. Galates 5, versets 19 à 21. Il nous montre c'est quoi les œuvres de la chair qui sont contraires aux lois de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et regardez ce qu'il dit après. « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Il met tout sur le même pied. Hein? On pourrait dire, ah, les excès de table, c'est pas grave. Même si je fais des excès de table, puis que... Non, c'est sur le même pied que les autres. Il dit, faites attention au temple du Saint-Esprit. Ça va dans la même foulée, si vous voulez. Alors, lisez ces choses-là. Moi, je vais les revoir aussi dans mon examen pour les pains sans levain. Lisez ces choses-là et demandez-vous dans quelle mesure est-ce que ces choses-là sont encore présentes dans ma vie? Est-ce que j'ai encore des disputes? Est-ce que j'ai encore des querelles? Est-ce que je prends trop d'alcool? Est-ce que je fais des excès de table? Est-ce que j'ai un faux Dieu devant mes yeux? Si je n'étudie plus la parole, si je ne le prie presque plus, si je ne vois pas en quoi je dois changer, j'ai un faux Dieu devant moi à ce moment-là. Alors, dans quelle mesure est-ce que ces choses-là sont encore présentes dans ma vie? C'est une façon facile pour s'examiner. Autre façon pour s'examiner, mais du côté positif, aller juste un peu plus loin. Là, on voit les fruits de l'esprit, c'est-à-dire, comme j'ai mentionné tantôt, ce sont les résultats des changements dans nos vies grâce au Saint-Esprit. C'est ça qu'ils appellent les fruits de l'esprit, du Saint-Esprit. Versets 22 à 25. C'est l'amour. Est-ce que j'ai plus d'amour qu'avant? Envers les autres, envers Dieu d'abord, envers les autres. Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que j'ai plus de joie qu'avant? Ou si je suis plus souvent maussade ou négatif? Est-ce que j'ai plus de joie qu'avant? C'est un fruit de l'esprit. Est-ce que j'ai une paix? Est-ce que j'apporte la paix? Heureux ceux qui procurent la paix. La patience. Est-ce que je suis un peu plus patient qu'avant? Je pense qu'on en a tous besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Et je dois m'examiner en regardant ça, puis travailler à en demander plus, puis à la mettre en pratique. Quand des circonstances arrivent où je pourrais manquer de patience, c'est là que c'est le temps de pratiquer, et c'est là que c'est le temps de téléphoner en haut tout de suite. Pour dire, Dieu, aide-moi à ne pas réagir tout de suite et à laisser passer les choses pour développer la patience que tu veux que je développe. Je l'ai faite à un certain niveau, mais j'ai encore à faire. Voyez-vous, en regardant les fruits de l'esprit et en me demandant dans quelle mesure je les ai ou je les ai pas. Mais là, je peux m'ajuster et ça devient réel, ça devient pratique dans ma vie de tous les jours pour mettre en pratique les lois de Dieu et développer son caractère pour me préparer à enseigner aux autres dans le monde à venir. Alors, la patience, la bonté. Est-ce que j'ai de la bonté envers les autres? Est-ce que je me soucie de leur situation? Est-ce que je suis touché quand je vois des gens qui souffrent? Est-ce que j'en parle à Dieu dans mes prières? Des gens qui sont malades ou des gens qui sont victimes de la guerre et ainsi de suite. La bienveillance, la foi. Est-ce que j'ai plus de foi? M. Meredith a parlé beaucoup dernièrement de la foi. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'on approche d'une époque où il nous faudra avoir une foi solide. Et surtout, où il ne nous faudra pas avoir notre foi, mais la foi de Christ. Puis pour avoir la foi de Christ, il faut être proche de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il vivra en vous, le Christ vivra en vous et vous donnera sa force, son courage, son zèle pour être capable de passer à travers les choses qui viennent. La douceur, la douceur. Est-ce que je suis plus doux qu'auparavant? Même si j'étais doux auparavant, pour ceux d'entre vous qui étiez doux ou douce, certains, je le sais, c'est le cas, est-ce que vous travaillez quand même à devenir plus doux ou plus douce pour être capable d'aller vers la perfection? La maîtrise de soi. Est-ce que je maîtrise mes réactions? Est-ce que je maîtrise mes pensées? Et pour maîtriser mes pensées, est-ce que je maîtrise ce qui entre dans mes yeux et dans mes oreilles? Ou si je regarde n'importe quoi, à la télévision, Internet, les romans savons, toutes ces choses-là, où tout le monde se tue allègrement, viole allègrement, vole allègrement. Est-ce que je laisse entrer ça dans mes yeux, dans mes oreilles? Si je laisse entrer ça, qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit ensuite? Ce qui est entré par mes yeux et par mes oreilles, tout simplement. Et je suis aux prises avec ça. Est-ce que j'ai la maîtrise de moi suffisamment ou si je dois m'appliquer davantage et même couper la source de ces choses-là qui viennent en moi pour être capable d'avoir vraiment la victoire? Et pas juste de végéter en attendant que, je sais pas quoi, mais en attendant que la grande détresse vienne et que je doive passer à travers ces tests-là pour montrer à Dieu que je veux lui appartenir. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair, c'est-à-dire qu'ils ont fait des efforts pour arracher de leur vie les choses qui leur plaisaient, mais qui étaient contraires aux lois de Dieu, qui ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est ça. Comme Dieu veut que nous marchions. C'est formidable. Il faut se poser honnêtement la question, est-ce que j'ai ces fruits-là? De quelle façon je peux les avoir davantage? Demandons à Dieu pardon pour les manquements qu'on a eus, j'en ai eu, pour les faiblesses qu'on a eues, les erreurs qu'on a commises, les fautes qu'on a commises, et continuons de nous purifier par la force du Christ en nous. On va en parler à la Pâque, dans la cérémonie de la Pâque, le Christ a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous vers qui on doit se tourner pour avoir la force d'être capable de vaincre nos faiblesses, de porter du fruit du Saint-Esprit et de plaire à Dieu? Maintenant, je conclue par un verset qui est tellement encourageant et qui nous démontre encore là la démarche qu'on doit faire pour s'examiner, continuer de s'examiner, continuer de se repentir et de vivre les fêtes du printemps cette année de façon particulière. Allez à Hébreux, chapitre 4, pour que ces fêtes-là non seulement nous rapproche de Dieu, mais nous fortifie considérablement pour qu'on traverse l'année qui vient avec succès. Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, il était en même temps le sacrifice et il est notre souverain sacrificateur. Il a traversé les cieux, il est retourné au trône de son Père, il est là maintenant. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. S'il y en a un qui comprend nos faiblesses, nos misères, nos erreurs, nos fautes, nos manquements, même s'il n'a jamais péché, c'est lui, parce qu'il a vécu dans la chair humaine. Il a affronté ces choses-là et il a vaincu Satan, il a vaincu le monde de Satan, il a vaincu la nature humaine. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance. Et on peut s'approcher avec assurance de son trône quand on se repent, quand on continue à désirer changer totalement pour devenir exactement comme lui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde, parce qu'on a encore besoin d'être pardonné par Dieu, parce qu'on n'est pas encore parfait, on a péché. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, pour qu'il nous soutienne jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la victoire. Préparons-nous aux belles fêtes du printemps avec joie. Préparons-nous aux fêtes du printemps avec beaucoup de reconnaissance, encore plus de reconnaissance qu'avant, à cause de ce que Dieu fait pour nous, à cause de ce qu'il fait en nous, de ce qu'il nous promet comme aide. Et soyons déterminés plus que jamais à nous purifier, à marcher humblement avec notre grand Dieu.